Donc ce matin, si j'ai bien compris ce qu'on attendait de moi, mais j'en suis pas certain, je vais vous parler, c'est pas très original, de l'amour de Dieu. Alors plus particulièrement de sa miséricorde, ou plus précisément de l'accueil de sa miséricorde dans nos vies. Et en guise d'introduction, je voudrais commencer par vous citer un passage de l'encyclique de Benoît XVI sur Dieu est amour. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine, ah, écoutez ça bien, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. À l'origine d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement. Et cet événement, c'est Dieu a tant aimé le monde, ça c'est moi, enfin c'est l'écriture. Cet événement, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Donc cet événement, c'est une personne, c'est Jésus. Toujours à propos de Jésus, mais c'est pour ça aussi, excusez-moi, que j'entends encore dire, en tout cas dans mon diocèse, parfois qu'on dit que les chrétiens, c'est une des religions du livre. On dit il y a trois religions du livre. C'est pas vrai. Excusez-moi, nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes la religion d'une personne, le Verbe incarné. Je vous cite encore. Toujours dans mon introduction, le Saint-Père, dans l'exhortation sur la parole de Dieu que vous avez tous lue, j'imagine. La parole éternelle qui s'exprime dans la création et se communique dans l'histoire du salut est devenue dans le Christ un homme né d'une femme. La parole ne s'exprime plus d'abord à travers un discours fait de concepts et de règles. Ici, nous sommes face à la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière est la parole définitive de Dieu ou que Dieu dit à l'humanité. La parole n'est pas seulement audible, elle ne possède pas seulement une voix. Maintenant, la parole a un visage qu'en conséquence, nous pouvons voir. Jésus de Nazareth. Donc, je prie, si le Seigneur, qu'il vous accorde cette grâce, si ce n'est pas déjà fait, de cette rencontre profonde avec Jésus qui nous révèle l'amour du Père. Et si nous ne l'avons pas déjà expérimenté, ou si nous l'avons déjà expérimenté, ce qui est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, laissons cet amour nous transformer. De plus en plus et jusqu'au bout. Alors, je voudrais faire quelques considérations, toujours dans mon sujet, sur l'amour de Dieu. La première, alors permettez-moi de vous rappeler des choses de fond. La première, c'est que l'amour de Dieu, c'est un amour créateur. Je vous citerai un passage, excusez-moi pour les citations, après je vous raconterai des histoires. Le Concile. Que vous avez lu aussi, j'imagine, à cette expression à propos de la création, c'est dans Lumen Gentium, le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers et a décidé d'élever l'homme à la communion de sa vie divine. Donc Dieu a créé librement, par amour, pour l'amour, parce qu'il est amour, parce que par nature, l'amour se communique. Et chacun, chaque être humain, tous ceux qui sont nés avant vous, vous qui êtes là, tous ceux qui viendront après nous, qui ne sont pas encore nés, chacun est appelé à l'existence par amour. Et au-delà de toutes les contingences humaines, appelé à la communion avec lui. Donc personne n'est un accident ou une erreur. Aucun d'entre nous. Quelles que soient les conditions heureuses ou douloureuses dans lesquelles nous sommes venus à l'existence. Et Dieu veut nous faire participer à sa vie et à son bonheur. Autrement dit, l'intention de Dieu sur l'humanité et sur nous individuellement est une intention de bonheur. Mais cette communion n'est possible que par une réponse libre et un don libre, et au don librement proposé de Dieu, au don fait par Dieu librement, il faut une réponse libre. Il nous faut accueillir ce bonheur. Je me permets de vous raconter une histoire, j'avais promis des histoires. Un jour, c'est Mère Teresa. C'est une émission de télévision que j'ai vue, je ne sais plus dans quel pays du monde, c'était pas en France, en tout cas, une émission de télévision. Et vous aviez Mère Teresa, vous aviez à côté d'elle un cardinal, je ne sais plus lequel, c'est pas intéressant, il y a un autre évêque. Voilà, ils étaient donc tous les trois, et il y avait une interview à la télé. Et le journaliste était extrêmement critique. Pas sur Mère Teresa, parce que ça, non. Mais sur l'Église, vous savez, comme d'habitude, enfin, c'est assez classique. On finit par s'habituer. Bon. Et alors, il dit, oui, Mère Teresa, ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est magnifique, les pauvres, enfin, tout ça, c'est très beau. C'est admirable, très bien. Mais alors, l'Église, bon, très bien. Mère Teresa, on regarde le journaliste, tout ça devant le plateau de télé, hein, devant la télé, et dit au gars, ne répond pas à sa question, bien entendu, et dit au gars, mais monsieur, vous n'êtes pas heureux. Mais c'est que, enfin, attendez, mais écoutez, pourquoi vous êtes si violent, si amer? Vous n'êtes pas heureux. Mais écoutez, c'est pas ça dont il s'agit. Ah, mais monsieur, vous n'êtes pas heureux. Et alors le journaliste, un peu déstabilisé, dit à Mère Teresa, tout ça dans la télévision, mais comment faire pour être heureux? Ah ça, monsieur, ça ne se conquiert pas, ça se reçoit. Et alors à ce moment-là, elle prend la main des deux évêques à côté d'elle, nous allons prier pour vous, monsieur. Bon, continue. Retenez simplement que Dieu vous a fait librement, parce qu'il est libre, par bonté, avec une intention de bonheur totale, et que personne n'est en trop. Ça va ? Autre chose, le drame du péché et de la séparation de Dieu. Vous savez, il y a l'histoire du péché des origines, péché originel. Alors permettez-moi, mais très brièvement, de revenir sur quelques éléments du récit du péché originel, justement, dans la Genèse. Alors, je ne vais pas tout vous dire, simplement quelques aspects. Pour vous rappeler que, d'abord, le récit de la Genèse n'est pas un récit historique au sens scientifique du terme. Il ne nous dit pas le comment, mais le pourquoi. Le mystère. D'accord ? Alors, vous vous souvenez, c'est l'histoire du serpent. Vous savez que le serpent s'approche d'Adam et Ève, et c'est un menteur. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Sauf, je vous préviens, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si vous en mangez, vous mourrez. Le serpent arrive, il dit, Dieu vous a dit qu'il ne fallait pas manger. Parce qu'en fait, il ne veut pas, si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Et il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est un menteur. Et il l'insinue dans la relation, en fait, de la méfiance. Il met un doute. Il pose une suspicion sur les intentions de Dieu. Est-ce qu'au fond, Dieu ne serait pas un peu méchant? Est-ce que Dieu, au fond, ne nous manipule pas un petit peu? Donc, il introduit le doute sur Dieu. Et Adam commence, et Ève, commence à se méfier de Dieu. Et ils vont vouloir prendre ce que Dieu voulait leur donner. Et qui ne pouvait être reçu que comme un don. Ils vont vouloir s'accaparer, ce qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs. C'est voué à l'échec. Alors que Dieu voulait le donner gracieusement. Et donc c'est un péché qui est un péché en fait de méfiance. Mais c'est aussi un péché d'impatience. Et puis c'est le tout de suite. C'est vraiment notre époque. Hein. C'est pour moi, tout de suite, maintenant. Nya. C'est l'orgueil, en fait, de ne pas dépendre de la gratuité du don. Tout par moi-même. Vous savez, je ne vais pas trop... En fait, on refuse toute gratuité. Parce que la gratuité, c'est gratuit. Nous, on veut toujours, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on verra après ce qu'on doit faire. Mais il ne s'agit pas d'abord de faire, il s'agit d'accueillir. Bon, ça va? Et on voit le même phénomène, dans la même difficulté, dans la parabole, vous savez, la fameuse parabole du père qui avait deux fils. Vous savez, on appelle ça la parabole du fils prodigue. En fait, c'est la parabole du père. Un homme avait deux fils, un père. Puis on décrit le premier, le second, vous connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la difficulté de ces deux fils, le premier en particulier, il veut les biens du père, il veut l'héritage, mais sans le père. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que quand il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, ce qui est un mensonge, parce que ce n'est pas à lui, Dieu lui donne. Enfin, le père lui donne. Vous dites à Dieu, donne-moi, laisse-moi vivre, il vous laisse vivre, pas de problème. Ce qu'il n'a pas compris, lui et le fils aîné, c'est que le vrai héritage, c'est justement d'être en communion avec le Père. Le vrai trésor, c'est la communion, c'est tu es toujours avec moi, tout ce qui est à toi est à moi. Tu ne m'as pas donné de vos gras, mais écoute, tu n'avais qu'à demander d'abord. Mais ce n'est pas le sujet, puisque nous sommes ensemble. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'êtes plus en communion avec lui, vous perdez tout. Tout. Bon. Alors le péché naît de la méfiance. C'est une impatience et c'est un orgueil, mais j'y reviendrai. Ça va, vous me suivez toujours? Bon, alors Dieu ne s'est pas arrêté au péché, je vous signale. Donc l'amour de Dieu est un amour créateur, mais c'est aussi un amour rédempteur. Attendez, il faudra m'arrêter quand ce sera fini, hein, parce que j'ai aucune montre. Ça va? Donc Dieu ne s'est pas arrêté au péché, l'amour de Dieu est un amour rédempteur. Alors toujours dans la Genèse, la réaction d'Adam et de Ève, vous vous souvenez, après le péché, c'est de se cacher. Tout d'un coup, ils ont peur de Dieu. Alors avant le péché, il n'y avait pas de problème. Dieu venait dans le jardin, dit-on, tous les matins, enfin ou alors au coucher du soleil. Et alors il venait, et Dieu est venu comme d'habitude, parce que Dieu est innocent. Dieu ne suspecte pas le mal. Dieu est surpris par le mal. Il se dit pas, tiens, ils vont surtout certainement pécher. Non, Dieu n'imagine pas cela. Et Adam et Ève ne sont plus là. Et ils se cachent. Et la relation avec Dieu est troublée, mais aussi la relation entre eux, entre hommes et femmes, mais aussi entre eux, entre nous. Et il est prêté à Dieu, c'est à ça que vous connaissez, Dieu se met à la recherche d'Adam. Et on prête à Dieu un cri, enfin c'est un véritable cri, c'est Adam, où es-tu? Et Dieu se met à la recherche de l'homme. Comment dire, cette recherche de l'homme Adam, où es-tu? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as peur? Ce cri, cette recherche traverse toute l'histoire du salut. Et vous pouvez essayer de lire toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec ce cri, Adam, où es-tu? Et vous savez que cette recherche de Dieu va aboutir à Jésus. Jésus, c'est Adam, où es-tu? Le curé d'Ars disait que ce n'est pas le pécheur qui court après Dieu pour le pardon, c'est Dieu qui court après le pécheur pour le rattraper, pour lui pardonner. Alors moi, je suis très imaginatif, j'ai toujours imaginé le bon Dieu qui courait après moi en me disant « Mais où est-ce que tu vas ? Et reviens !» Vous voyez, nous pensons souvent que c'est nous qui cherchons Dieu. C'est toute une époque, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Je me demande parfois ce qu'on cherche. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui nous recherche. Et il y a un moment dans l'existence, on s'aperçoit tout d'un coup que c'est lui qui nous cherche. Et Dieu vient rejoindre l'homme dans sa détresse même, il vient le rejoindre dans sa méfiance même, et dans la nôtre. Donc Jésus, je vous fais un caté, je fais du caté, là, c'est le résumé du caté. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit très clair. Jésus nous révèle l'amour du Père. Plus encore, il ne fait pas que révéler l'amour du Père. Il ne fait pas qu'en parler. Il est, dans sa personne, l'amour du Père. Il est, lui-même, en lui-même, le pardon et la réconciliation. Il est la guérison du doute et de la méfiance. Il ne fait pas qu'en parler, il ne fait pas que nous inviter à nous approcher du Père. Il est lui-même tout l'amour de Dieu donné et toute la miséricorde. Vous savez, que se passe-t-il dans le mystère de la rédemption? On en parle assez peu en fait. Je me suis aperçu que dans nos homélies et dans nos cathédrales, il y a deux choses dont on parle pratiquement jamais, c'est la rédemption et puis c'est les fins dernières. Enfin, de temps en temps quand même. Alors je voudrais simplement m'arrêter quelques minutes encore sur un texte d'écriture que vous connaissez pour essayer de dire quelque chose sur le mystère de la rédemption. C'est le fameux passage de la femme adultère. Vous connaissez. Je vais quand même vous le lire. Les scribes et les pharisiens amènent alors une femme qui avait été surprise en adultère. Et ils la placèrent au milieu du groupe. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour voir, avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer des traits sur le sol. Comme il continuait à poser des questions, Jésus se redressa et leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta là seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne vais pas tout dire non plus, je vais pointer quelques éléments. D'abord, on veut tendre un piège à Jésus. Donc, vous voyez, les intentions sont déjà pas très claires. Vous savez, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui s'est déjà fermé les oreilles. Et rien de plus désagréable que des gens qui posent des questions mais qui ne veulent pas les réponses. Ce qui nous arrive régulièrement. Surtout dans notre relation avec Dieu. On s'adresse à Dieu, mais on n'a pas toujours envie qu'il réponde. Même après, on va se plaindre qu'il ne nous répond pas. Je peux vous affirmer, faites attention à ce que vous demandez. Parce que si vous demandez vraiment, il va vous répondre. Et Dieu peut penser différemment de vous, vous savez. C'est comme quand on fait des lectures. Oui, mais attendez, derrière tout cela, il y a quelque chose de plus profond. Il y a une objectivité. Dieu ne se réduit pas à ce que vous en pensez. Jésus ne se réduit pas à l'imagination que vous en avez. Souvent, j'ai été participer l'autre jour dans mon diocèse, un groupe s'est partagé la parole là. Alors c'était sympathique, et puis il y a quelqu'un qui a dit, j'ai pas osé réagir parce qu'on aurait dit l'évêque, il n'est pas tendre. Et alors, et la personne disait, ah ben moi j'ai lu dans le passage, là, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Jésus dit là, l'évangile, vous savez là, il a dû se tromper. La question n'est pas de savoir ce que vous en pensez, c'est qu'est-ce qu'il dit. Objectivement, c'est lui le maître et seigneur de nos vies. Alors je reviens au texte. Donc Jésus, une autre remarque. Donc le piège qu'ils veulent poser, vous avez compris, c'est que la loi dit qu'il faut comment lapider ces femmes. Alors est-ce qu'il va appliquer la loi? Alors comment va-t-il faire avec la bonté? Comment va-t-il faire avec la justice s'il est miséricordieux? Donc Jésus, d'abord, ne regarde pas ces femmes. Du moins, pas immédiatement. Pourquoi? Parce que je pense que la pureté du Seigneur, sa bonté est telle que pour quelqu'un dans une telle situation, ce regard peut même être violent. C'est pas, vous savez, parfois, Dieu est tellement bon que c'est violent. Et nous ne sommes pas habitués à ça. C'est Dieu plus grand que nous, mais plus grand au sens de plus grande humilité que nous, plus grande bonté que nous, plus grande miséricorde que nous. C'est ça la transcendance de Dieu. C'est cette distance. Bon. Alors, et il pose la question qui est une question intelligente, une question de sagesse, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc il s'en allait en commençant par les plus vieux. Alors pourquoi les plus vieux? Alors moi pendant longtemps je me disais que les plus vieux avaient péché plus que les plus jeunes. Une expérience m'a prouvé que la bêtise humaine n'attend pas l'âge. Par contre en général quand on est plus vieux, on comprend, enfin normalement, si on vieillit normalement, on comprend qu'on n'est pas mieux que les autres. Quand on est jeune et pur, vous savez, les jeunes cathos sympas, là, en pleine forme, il y en a quelques-uns. Vous allez voir ce qu'on va voir. Vous savez, le jeune prêtre en forme, le jeune évêque aussi, peut-être. Et alors, puis un jour, on s'aperçoit que il y a quelque chose de plus radical, plus profond. En tout cas, ils s'en vont. D'autre part, c'est que ce texte fait aussi allusion, il y a les vieux et les anciens d'Israël avec l'histoire de, comment elle s'appelle, Suzanne, qui avait été accusé à tort. Là, c'était, ils accusaient de péché Suzanne, alors que c'était eux, les pécheurs. Alors, il y a tout ça derrière, mais je ne vais pas m'étendre. Donc, Jésus, alors ils s'en vont tous, les uns après les autres. Jésus est libre, et librement décide. Quelqu'un t'a-t-il condamné? Non, personne. C'est magnifique. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ceci étant dit, c'est quand même problématique. Et il y a un commentaire de saint Augustin qui dit, mais bon, très bien, Jésus a pris, c'est le cas de le dire, sur lui, de ne pas condamner cette femme. Mais quand même, il y a un adultère. Et puis quand même, et la justice. Expliquez ça, excusez-moi du raccourci, mais au mari. Mais quand même. Alors comment Jésus peut-il se permettre une telle chose? Avant cela, quand la femme s'est retrouvée seule devant lui, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, en réalité, il y en a un seul qui n'avait jamais péché. C'est lui. Donc le seul qui, d'une certaine manière, pouvait et, selon la loi, devait lui jeter la première pierre, c'est Jésus lui-même. Il a dû avoir très peur. Hein. Mais tout de même, dit saint Augustin, alors en réalité, que se passe-t-il? C'est que la pierre que devait recevoir cette femme, c'est Jésus qui la prend sur lui. C'est ça la rédemption. Les conséquences de notre péché. Ce n'est pas pour vous culpabiliser. C'est superbe. Moi, je suis bien content que quelqu'un ait pris sur lui le poids de mon péché. Je sais qu'il faut être assez humble pour l'accepter. Mais le mystère de la rédemption, c'est ça, je ne suis pas sûr que nous mesurons. C'était nos péchés qu'il portait, c'était nos blessures qu'il portait. Lui qui est sans péché, lui qui est absolument innocent, il prend sur lui tout le poids du péché de l'humanité, les nôtres. Il l'a fait, hein, c'est fait. Mais est-ce que nous mesurons les certains, excusez-moi, c'est pas la gravité, le drame de ce mystère et sa beauté. Je suis à peu près sûr, nous n'avons pas mesuré encore combien ou jusqu'où a été le mystère de l'amour de Dieu. Nous avons perdu le mystère, la contemplation du mystère de la croix. Vous savez, ça rejoint le message de parrainemonial ici. Le message de parrainemonial, vous savez, est résumé par cette phrase. Alors, je ne m'étends pas sur les apparitions, tout ça. C'est « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui, en retour, ne reçoit que ingratitude. » Il faut aller jusqu'au bout du message. Il y a deux dimensions, qui en appellent une troisième, d'ailleurs. La première dimension, c'est Jésus, à travers les événements de Paris, rappelle l'amour passionné de Dieu pour l'humanité et pour chacun d'entre nous en particulier. Et c'est bouleversant, c'est un amour amoureux, passionnant, passionné. Mais il y a aussi au cœur du message, mais ça traverse toute l'écriture, une déchirure, une blessure, une plainte, non pas une condamnation, mais une douleur. Marguerite Marie dit dans un de ses textes que l'endroit où le Seigneur a le plus souffert, c'est à l'agonie, dans le jardin de Gethsémani. Et pourquoi? Vous savez, c'est l'angoisse, jusqu'à suer des gouttes de sang. Certains d'entre vous ont peut-être connu l'angoisse, ou la connaissent peut-être. Mais jusqu'à saigner des gouttes de sang, le Seigneur lui-même a goûté l'angoisse, le sentiment d'abandon de Dieu, de la dérision totale. Et elle dit que le drame de Jésus à ce moment-là, c'est de désespérer, de douter de son Père et de douter que ça serve à quelque chose. Il dit, voilà, tu vas donner toute ta vie, tu la donnes jusqu'au bout et certains ne vont pas l'accueillir. Ça va servir à rien. C'est dramatique. Et le péché, l'ingratitude, alors c'est pas pour vous faire peur, c'est pour faire prendre conscience jusqu'à quel point nous avons et nous sommes aimés, jusqu'à quelle mesure. Et vous savez, et la blessure du cœur du Christ, c'est pas pourquoi vous ne m'aimez pas, c'est pourquoi vous ne vous laissez pas aimer. Vous savez, j'ai pensé pendant longtemps que quand j'arriverai au ciel, parce que j'ai bien l'intention d'y arriver, je suis même sûr, puisque je veux y aller. Il faudra un peu de temps, dans mon cas en tout cas. Mais quand j'arriverai au ciel, j'ai pensé pendant des années que le Seigneur me demanderait, ce qui est sans doute vrai aussi, mais Seigneur, Yves, est-ce que tu m'aimes? Et un jour j'ai compris, il y a quand même quelque temps de ça, que ce n'est pas ça qu'il me demandera. Il me demandera, est-ce que je peux t'aimer? Est-ce que tu veux bien que je t'aime? Avec toutes les conséquences. En fait, je t'ai aimé. Est-ce que tu veux bien? Et jusqu'au bout, jusqu'à traverser la gravité même de ton drame, de ton indifférence et tout ça. Donc je vous invite à demander au Seigneur de vous faire comprendre et de saisir un tout petit peu la profondeur à la fois de son amour, mais du coup aussi peut-être de notre propre péché. Alors, Il s'agit maintenant d'accueillir la miséricorde de Dieu. Alors je voudrais en premier lieu vous inviter à cela. Alors je me suis dit, comment je vais faire pour vous inviter, vous donner envie d'accueillir plus la miséricorde de Dieu. Alors je me suis dit que j'allais vous donner quelques exemples à la fois magnifiques et, vous allez voir, terriblement radicales. Alors j'en ai un premier dans tous les genres, et je vais citer d'autres que moi. J'ai pensé à Thérèse Avila. Thérèse Avila, elle dit qu'elle s'est convertie après 20 ans de vie religieuse. Ça vous laisse une chance. Ce qui est plus ou moins vrai, parce qu'elle cherchait le Seigneur, elle vivait déjà avec elle, mais là, à un moment, un passage qui a été un basculement dans sa vie, après effectivement 20 ans de vie religieuse. Devant, elle va passer devant une statue qui représente le Christ léché au mot. Je vous lis ce qu'elle dit elle-même. « Mon âme se sentait bien lasse. » Ça arrive dans la vie. « Mon âme se sentait bien lasse. » Mais ses mauvaises habitudes, je trouve ça très bon, ne lui permettaient pas de trouver le repos dont elle avait soif. Un jour, comme je rentrais dans l'oratoire, j'y aperçus une statue qu'on s'était procurée en vue d'une fête à célébrer dans le couvent et qu'on avait placée là en attendant. C'était un Christ tout couvert de plaies et si touchant qu'à la considération, je me sentis profondément bouleversé. Tout y peignait bien ce que notre Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais fait produire de telles blessures que je croyais sentir mon cœur brisé et je me jetais auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et suppliais de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. Alors un peu plus tard, elle revient sur l'événement et dit « Cette fois, je parle du jour où je contemplais cette statue, alors que je n'espérais plus rien de moi-même. » Alors que je n'espérais plus rien de moi-même. J'attendais tout de Dieu. Si je m'en souviens bien, je dis au Seigneur, je ne me lèverai pas de là tant qu'il n'aura pas exaucé ma prière. Il l'exauça. J'en suis convaincu, car à partir de ce jour, mes progrès furent sensibles. Alors que je n'espérais plus rien de moi-même. Ça va ? Je vais vous donner un autre exemple, d'un autre genre. C'est Charles de Foucault, bienheureux Charles de Foucault. Vous savez que vous connaissez sa vie vaguement. Je vais vous revenir sur le passage qui a été le point de basculement de son existence. Cette fameuse rencontre avec l'abbé Huvelin à l'église Saint-Augustin à Paris. Alors, j'ai retiré ça d'un récit. Très bien, je vous le lis. Un monsieur Huvelin, donc le prêtre, était là. Charles se penche vers lui. Donc, il vient à Saint-Augustin et l'autre est au confessionnal avant la messe. Et voilà, Charles se penche vers lui sans s'agenouiller, murmure d'une voix étreinte par l'émotion. Monsieur l'abbé, ne vous étonnez pas, je ne viens pas pour une confession, je n'ai pas la foi. Je désire seulement avoir quelques renseignements sur la religion catholique. L'abbé Huvelin le fixa de son regard. Vous n'avez pas la foi? Vous n'avez donc jamais cru? Si, dit Charles de Foucault, il y a 13 ans, mais en ce moment, je ne crois pas. Il y a toutes les difficultés, les mystères, les dogmes, les miracles, tout ça, c'est compliqué. Réponse de l'abbé Huvelin. Vous vous trompez, mon enfant. Ce qui vous manque, en ce moment, pour croire, c'est d'abord un cœur pur. Mettez-vous donc à genoux, et confessez-vous à Dieu, et vous croirez. Mais je ne suis pas venu pour ça. Ça ne fait rien. Mettez-vous à genoux et dites le confiteor. Sans trop comprendre ce qui lui arrive, Charles s'agenouille et longuement confesse toute sa vie. Enfin, le prêtre lui donne l'absolution. La joie envahit Charles et une paix qu'il croyait impossible. Êtes-vous à jeun ? C'était l'époque où on ne communiait pas sans, si on avait mangé. Demande le prêtre, il dit oui, allez communier. Retenez simplement ce qui vous manque en ce moment. C'est, vous avez entendu, non ? Vous n'avez pas la foi, vous n'avez donc jamais cru. Hein ? Mais ça va plus loin que vous ne pouvez. À ce qui vous manque en ce moment pour croire, ce qui vous manque pour croire, c'est d'avoir un cœur pur. Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu et vous croirez. C'est exactement comme Zachée. On ne lui dit pas « change et Jésus viendra chez toi ». Accueille Jésus chez toi et tu changeras. C'est lui qui transforme nos vies. La transformation de notre existence à grâce du baptême, ce n'est pas nos efforts, c'est le don de Dieu que nous laissons agir en nous. C'est plus humble. Vous voulez un autre témoignage, une autre affaire. Saint Augustin. Ça va, vous me suivez encore ? C'est un autre genre. Saint Augustin, il a une vie intéressante. Il a cherché longtemps, il a eu une vie de errance complexe, à la fois intellectuelle et morale. Bon, très bien. Et puis, il commence à avancer vers Dieu. Alors, je vous le lis, hein, c'est tiré des confessions. Quand, du fond, le plus intérieur de ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, en clair, il dit... Il médite et il voit toute sa misère dans sa pensée. Il amasse toute sa misère et ses problèmes dans son cœur, devant les yeux. Ça vous est jamais arrivé d'amasser toute votre misère devant votre cœur? Il s'y éleva un affreux orage. Et pour répandre avec toutes mes pensées, je m'éloignais d'Alipus. Il était en compagnie de son frère, Alipus. Il était assis à côté de lui. Donc il sait, pour répondre à toutes ses pensées, il s'écarte de son frère. La solitude allait me donner la liberté de mes pleurs. Il désespère, il a envie de pleurer. Tel était mon état. Je lâchais les rênes de mes larmes. Et je vous parlais, il s'adresse au Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur, serez-vous irrité ? Ne gardez pas souvenir de mes inquiétudes passées, car je sentais qu'elles me retenaient encore. Et tout à coup, j'entends sortir d'une maison voisine comme une voix d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait « Prends, lis, prends et lis ». Et aussitôt, je changeais de visage, je cherchais à me rappeler si c'était un refrain en usage de quelque jeu d'enfant. Et rien de tel ne me revint à la mémoire. Je revins vite à la place où Alipus était assis, donc son frère, car j'y avais laissé le livre de l'apôtre. C'était le texte de saint Paul, les écrits de saint Paul. Je pris le livre, je l'ouvris, et je lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Alors vous allez voir sur quoi il est tombé, l'ami. Vous savez, parfois, la conversion et l'amour, c'est assez tranchant. Hein. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, dans les voluptés impudiques, ni dans les disputes, ni en jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, de temps en temps, nous, ce genre de verset, on va le lire ailleurs après. Et il dit ceci, « Je n'en lus pas plus ». Je n'eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il se répandut dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Alors laissez le Seigneur Voilà. La parole qui traverse là, comme ça. Ok? Alors, il nous faut un jour découvrir notre misère. Donc, une étape fondamentale de nos vies, c'est de découvrir, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'est pas mieux que les autres. On doit comme, c'est une étape fondamentale, vous savez, de toucher à notre misère. On constate un jour qu'on n'est pas capable, ou du moins qu'on est capable du pire, qu'on n'est pas mieux que les autres, qu'il y a en nous une capacité. Et alors on peut tenter à ce moment-là, vous savez, du désespoir. Et pourtant, c'est un passage essentiel. Je ne sais pas comment vous faire comprendre cela. Parfois, ça peut être assez simple, hein, et parce qu'on est invité du coup à basculer dans la miséricorde infinie de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est personnelle, mais qui m'a tellement fait de bien que j'ai envie de vous la raconter. Il y a quelques années, j'étais séminariste. Et j'étais ici, ça s'est passé ici à Paris. Et une session, on était moins nombreux, mais comme ça. Et puis alors, tout le monde allait se confesser. Enfin, je voyais les autres aller se confesser. Alors moi, j'y allais de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, vraiment, enfin, pas très souvent. Et alors, comme les autres allaient se confesser, je voyais ça, je me dis, il faut que j'y aille aussi. Mais sans vraiment, vous savez, j'y suis allé parce que les autres y allaient. Et puis, donc j'ai repéré un prêtre, c'était dans son coin, un vieux. Bon voilà, et je me suis assis à côté de lui, et j'ai commencé ma confession. Je vous dirai pas tout, mais enfin j'ai commencé comme ça. Mais sans réfléchir, vous savez. Et je lui dis, vous savez, je demande pardon au Seigneur, je ne sais plus comment j'ai formulé, parce que je suis orgueilleux. Mais vous savez, j'ai dit ça comme si j'avais dit, il fait beau aujourd'hui, hein. Le prêtre m'a regardé et il m'a dit, eh ben ça, c'est grave. J'étais furieux. Je me suis dit, mais de quoi il se mêle? C'est vrai, et puis vous savez, et en même temps, j'ai dit, c'est vrai, mais attendez. Et en même temps, il y a parfois plusieurs pistes, je me disais, mais il a raison. Un, je le suis, orgueilleux. Deux, c'est grave. Plus profondément que vous n'imaginez. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais je m'en souviens. En tout cas, un jour, il nous faut entendre jusqu'au fond, jusqu'aux racines. Vous comprenez ou pas? Alors à ce propos, je vais vous dire deux choses, je voudrais tenir deux choses. À la fois, notre péché est terriblement plus grave que nous n'imaginons. Excusez-moi. Hein. Et à la fois, il ne l'est pas. Enfin, les deux. À la fois, ou plus exactement, la miséricorde de Dieu est infinie, mais je ne sais pas comment vous dire. Je vais vous rappeler deux petits... Ça va, vous me suivez tout le monde. Le curé d'Ars, un jour un gars vient se confesser au curé d'Ars, et le curé d'Ars, à chaque fois que le pénitent le pénitent accuse un péché, le curé d'Ars pleure. Alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Quoique, qu'est-ce qui pleure? C'est le Seigneur ou nous? Et alors, à la fin de la confession, le pénitent dit au curé d'Ars, mais pourquoi vous pleurez? Et vraiment, parce que vous ne pleurez pas. Non pas qu'il y avait une accusation violente, mais une conscience. Une conscience. En fait, pas une conscience de la gravité, mais une conscience de l'amour de Dieu, de son immensité. Et alors, dans un autre genre, j'ai envie de vous lire un passage de Thérèse. Voilà. Qui, elle, va vivre un truc différent, parce qu'on va lui dire que ses péchés ne font pas de peine au bon Dieu. Mais je vais quand même vous le lire. Ordinairement, les retraites prêchées me sont encore plus douloureuses que celles que je fais seule. Vous savez, parfois les sessions, c'est douloureux. Enfin, les retraites, tout ça. Alors elle, c'était difficile. Mais cette année-là, ce fut différent. Malgré le sentiment intime que j'avais, car il me semblait que le prédicateur ne pouvait pas me comprendre, étant surtout destiné à faire du bien aux grands pécheurs, mais pas aux âmes religieuses. Le bon Dieu voulant me montrer que c'était lui le seul directeur de mon âme, se servit justement de ce père qui fut apprécié que de moi, pas des autres. Bon, j'avais alors de grandes peines intérieures, de toutes sortes, jusqu'à me demander parfois s'il y avait un ciel. Bon, j'étais traversé d'un doute terrible. Je me sentais disposé à ne rien dire de mes peines intérieures. À peine entré dans le confessionnal, je sentis mon âme se dilater. Après avoir dit peu de mots, vous savez, pas besoin de dire beaucoup de choses pour être compris quand on dit la vérité. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Mon âme était comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même. Il me lança à pleine voix sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lequel je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu, qui tenait la place sa place et qu'il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, je ne sais pas si on peut dire ça de chacun d'entre nous. Oh, que je fus heureuse en écoutant cette consolante parole. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes ne pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Je sentais bien au fond de mon cœur que c'était vrai, car le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Je suis d'une nature telle que toute crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. Alors, commentaire personnel, la difficulté, c'est de savoir si nous sommes disposés à nous livrer à l'amour. Parce que l'amour, c'est plus exigeant que la crainte. C'est plus radical. Parce que vous comprenez, si tout ce que je vous dis est vrai, si c'est vrai que Dieu est mort sur la croix pour le salut du monde, qu'il est mort ressuscité, si c'est vrai, qu'est-ce que vous attendez? Seulement, on voit bien que du coup, il n'y a pas de demi-mesure. Hein, ce que disait le Seigneur, non pas le Seigneur, le Jean-Paul II aux jeunes, hein, Jésus est un ami exigeant. Mais l'exigence n'est pas celle qu'on croit. C'est l'exigence de la charité. C'est l'exigence de la radicalité de la miséricorde. Mais vous avez le choix entre l'exigence ou la médiocrité. Il n'y a pas d'entre les deux possible. Bon, il n'en reste pas moins. Ça va ? Il n'en reste pas moins, malgré ce que je vous ai dit sur Thérèse, il n'en reste pas moins qu'il y a une nécessité de conversion, c'est-à-dire une détermination à changer et parfois à renoncer au mal. Dieu peut nous manifester son amour, nous accorder son pardon, il le fait, nous assurer de sa présence, s'approcher de nous de manière très forte, mais il ne peut pas choisir à notre place. Je suis tombé il y a quelques mois sur un passage d'un certain père l'Allemand. J'ai envie de vous le lire. « Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de sa grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent, en nous donnant à lui sans réserve et dans une totale remise de nous-mêmes. Mais accablés de notre amour propre, aveuglés par notre ignorance, retenu par de fausses craintes, nous n'osons franchir le pas. Et de peur d'être misérables, nous demeurons toujours misérables. Au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut que nous posséder que pour nous affranchir de nos misères. Je vous citerai aussi quelque chose, c'est peut-être un peu plus violent, mais tant pis, puisque c'était sa fête hier, Alphonse de Ligorie. Il y a de très beaux passages. Ah, 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 ah. Voilà bien l'erreur. Certains prétendent à la sainteté, mais une sainteté à leur façon. Ils veulent aimer Dieu, mais selon leur fantaisie, sans renoncer à tel ou tel divertissement, aux recherches de la vanité. Alors là, il est précis, hein, dans la toilette ou la sensualité. Ils aiment Dieu, mais s'ils ne réussissent pas à obtenir tel emploi, les voilà troublés. Si l'on effleure un peu leur réputation, ils jettent feu et flamme. Ils aiment Dieu, mais ils persistent dans leur attachement aux richesses, aux honneurs du monde, à la gloriole de passer pour noble ou pour savant, pour plus vertueux que les autres. Ces gens-là font oraison, vont à la Sainte Table, vont communier, mais parce qu'ils portent un cœur encombré de terre, ils n'en retirent pas ou peu de fruits. L'attachement à la volonté, ne fût-ce qu'une minimum imperfection, empêchera toute âme, quelles que soient par ailleurs ses vertus, d'arriver à l'union divine. Peu importe que le fil qui retient l'oiseau soit plus ou moins gros ou ténu, tant qu'il ne cède pas, si menu soit-il, l'oiseau reste prisonnier dans l'impossibilité de voler. Quelle pitié de voir certaines personnes riches en pratiques pieuses et en vertus, en faveur surnaturelle, qui, faute d'en finir courageusement avec cette légère attache, s'interdisent l'accès à l'union avec Dieu. Et pourtant, il leur suffirait d'un envol vigoureux qui achèvera de briser le fil. Alors vous allez me dire, bah ouais. Moi, je ne sais pas ce que vous allez me dire en réalité. Mais j'y arriverai jamais. Comment faire? Alors on vous a invité à, j'ai entendu ça tout à l'heure, je crois ce soir ou dans la journée, allez vous confesser. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je pense que c'est fait par la session habituellement. Je vous rappelle quand même que pour se confesser, il y a traditionnellement, le catéchisme dit qu'il y a trois actes du pénitent et un acte de Dieu. Vous savez ce que c'est, non? Premier acte, l'acte du pénitent, le premier, c'est quoi? C'est quoi?